Patrice Brun, bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage, les 50 dates historiques de la Grèce antique. Alors, vous êtes professeur émérite à l'Université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la Grèce classique. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de vous demander ce qui vous a motivé pour vous lancer dans l'écriture de ce livre qui est un peu particulier, puisque même s'il s'inscrit dans une tendance, disons, actuelle hein, de la réflexion historique sur l'événement, sur la notion d'événement, et que pour d'autres périodes historiques, finalement, un certain nombre de publications étaient faites, pour le moment, pour l'Antiquité, rien n'avait été tenté. Et donc, voilà, la question que je me demandais, c'était, au fond, pour vous, quelle est un peu l'originalité de ce livre ?
Eh bien, il faut d'abord dire que des petits ouvrages, des ouvrages sur les grandes dates de l'Antiquité, il y en a eu un, il y a de ça 30, 40 ans à peu près, mais c'est une succession de dates, des centaines et centaines de dates, qui offrent un squelette, mais aucun muscle, aucune chair. Et ça faisait longtemps que j'avais... que je souhaitais en tout cas essayer de prolonger une réflexion historique sur ce que pouvait être une date historique. Dans l'Antiquité, évidemment, puisque, comme vous l'avez dit, je suis spécialiste de cette période et de cette région du monde, la Grèce. J'ai toujours essayé, dans les travaux précédents que j'ai engagés, de voir ce que les anciens pouvaient conserver au niveau de la mémoire d'un personnage, d'un événement, d'une situation donnée. Et c'est ça qui, petit à petit, m'a dirigé vers ce type d'ouvrage. J'en ai parlé aux éditions Armand Collin, c'est moi qui leur ai proposé. Je ne dirais pas qu'ils ont accepté avec un enthousiasme débordant, mais ils ont accepté quand même. Et après discussion un petit peu de ce que on pouvait dire, écrire dans ce type d'ouvrage, bah, je me suis décidé à sélectionner un certain nombre de dates qui peuvent être considérées comme historiques.
Alors justement, ces dates, hein, il y en a 50. Et donc, il y a une sorte de paradoxe que vous évoquez d'ailleurs... Dans l'introduction en partie, qui ces dates qui vont de 1250 avant Jésus-Christ environ jusqu'à 529 après Jésus-Christ, c'est des dates qui finalement exprimées telles quelles n'ont aucun sens hein, pour les Grecs de l'Antiquité. Et donc là, il y a un décalage entre finalement le regard qu'on porte sur ces événements, la manière dont on les situe dans le temps, et puis la façon dont les Grecs eux-mêmes concevaient finalement la chronologie.
Alors, il est évident que un Grec de l'époque de Périclès, par exemple, ne sait pas qu'il vit au 5e siècle avant notre ère. Ça, déjà, au niveau du compute, c'est ça n'a pas de sens. Et je dirais même en 529, c'est plus tard encore que l'on a commencé à faire une chronologie, à faire un compute à partir de la naissance que l'on a supposé être l'an 1. La naissance du Christ. Donc ce sont des dates qui, effectivement, ne correspondent à rien en termes numériques, si je puis dire, dans l'Antiquité. Mais dans ces dates-là, il y en a qui ont paru importantes à certains, aux Grecs, au moment où ils le vivaient. Je pense, par exemple, on en reparlera peut-être, mais comme la bataille de Marathon, par exemple, la bataille de Salamine, des choses comme ça, il y a des batailles qui ont pu paraître essentielles. Et puis d'autres qui maintenant nous paraissent importantes, alors qu'elles sont passées, elles sont passées totalement sous les radars des contemporains. Et évidemment, il y en a qui ne connaissaient pas. Un Grec de l'Antiquité classique ignore complètement tout de la civilisation mycénienne. Parce que la première date que j'ai choisie, qui est 1250 à peu près avant notre ère, est une date évidemment approximative, et elle ne correspond à aucun événement. Elle ne correspond à aucun événement, sinon à ce que l'on peut considérer comme un apogée de la première civilisation grecque connue, la civilisation mycénienne.
Mais alors, le décalage dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que nous apprenons l'histoire et on va dire le grand public cultivé auquel s'adresse cet ouvrage connaît aussi l'histoire par le biais d'une périodisation qui a été finalement décidée. créé, inventé après coup. Qu'est-ce que ça, finalement, a comme implication par rapport à la vision qu'on peut avoir de ce passé lointain?
Et d'abord, ça signifie une chose, c'est que toute périodisation est subjective. Comme le choix, d'ailleurs, des dates est subjectif. Pour moi, ça signifie que bon, les grandes périodes historiques de la Grèce, on part de la Grèce mycénienne, de la Grèce dite des âges sombres, de la Grèce archaïque, de la Grèce classique, de la Grèce hellénistique, puis de la Grèce romaine. Alors évidemment, là, on fait des coupures qui dans l'Antiquité ne signifient rien non plus. On n'imagine pas à un moment les Grecs dire bon, écoutez, l'archaïsme c'est fini, on va passer à autre chose. Ce sont des choses qui sont strictement impossibles. Mais pour moi, ce type d'ouvrage permet, je dirais pas de rompre la périodisation, mais d'en trouver de nouvelles. D'en trouver de nouvelles autour de dates qui, encore une fois, ne sont pas des dates butoirs. Dans le lot, il y en a très peu. Je dirais, pour moi, les deux grandes dates butoirs du monde grec, c'est la mort d'Alexandre et la mort de Cléopâtre et l'entrée de l'Égypte dans le monde romain. Donc, finalement, c'est choisir d'autres formes de périodisation avec des événements ou des personnages. Parce que pendant trop longtemps, on a fait la chronologie à coup de batailles jamais décisives et de paix toujours provisoire. Et là, j'ai essayé de montrer que un personnage, ou la mort d'un personnage, ou la vie d'un personnage, comme par exemple la vie de Sappho, pouvait signifier quelque chose dans ce que nous avons conservé de l'histoire grecque.
Alors, ce que vous dites... rejoint un point qui peut peut-être surprendre, on va dire, le lecteur non averti qui ouvrirait votre livre consacré donc aux dates de la Grèce antique. Et finalement, vous évoquez Alexandre, Cléopâtre. Alors, c'est ni la Grèce et puis c'est l'époque romaine, c'est-à-dire que finalement, le lecteur se retrouve confronté une série de dates dont le champ. Hein, finalement, est plus large que ce que le titre paraît indiquer. Et ça nous renvoie finalement à ce qu'était ce monde grec de l'Antiquité. Et de ce point de vue-là, vous consacrez 10 fiches, hein, les 10 dernières, à des événements qui, aux yeux de certains lecteurs, pourraient plutôt être davantage rattachés à l'histoire romaine, par exemple. Donc ça montre bien que cette césure dont vous parlez est tout à fait conventionnelle. Et on aurait pu aller sans doute plus loin, d'ailleurs, dans cette prise en compte du monde grec à l'époque romaine.
Alors, on aurait pu. Alors, c'est vrai que certains pourront dire que finalement, il y a peu de dates de la Grèce dite romaine par rapport à la Grèce dite classique. Ça, c'est tout à fait évident. Mais encore une fois, c'est vrai, les choix que j'ai pu faire sont subjectifs. Donc on est toujours un petit peu prisonnier de sa formation, de ses recherches précédentes, je dirais de ses connaissances aussi. Je connais moins bien, par exemple, Athènes au 3e siècle de notre ère que Athènes au 4e siècle avant notre ère. Donc c'est vrai qu'il y a, des choix qui se sont faits un peu par nécessité, mais vous avez cité Alexandre, vous avez cité Cléopâtre, tous deux sont grecs. Ils habitent l'un la Macédoine, qui est limitrophe de la Grèce dite classique. Alexandre parle le grec. Et Cléopâtre, qui vit en Égypte, parle le grec. Même si elle, qui est une femme absolument remarquable, parle à la fois également le latin et parle également l'égyptien. Mais elle est de structure familiale grecque. Donc la Grèce, ce n'est pas un pays. La Grèce, c'est, on a dit souvent, une civilisation, c'est un monde. Et finalement... Ce qui m'a intéressé, ce sont toutes les régions où, finalement, on parlait le grec. Et d'une certaine manière, parler une langue, c'est penser une civilisation, c'est penser, je dirais, un état d'esprit. Et c'est pour ça que je suis allé également jusqu'à Syracuse, avec un moment qui m'a paru important, c'est la mort d'Archimède. et la presse de Syracuse. Mais je suis allé aussi à Alexandrie. On aurait pu aller effectivement un petit peu plus loin. On aurait pu aller, par exemple, jusqu'en Bactriane, l'actuel Afghanistan, où effectivement il y a des Grecs qui sont installés, qui ont vécu et créé une civilisation originale. Mais bon, on s'arrête à 50. Sinon, le risque eût été d'allonger de manière inconsidérée cet ouvrage.
Alors, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la chronologie qui comporte une part de subjectivité ou une part de convention. Et les historiens de métier savent bien que tout fait historique est construit. Et c'est aussi quelque chose qui peut, d'une certaine manière, surprendre le lecteur. Et c'est l'intérêt de ce type d'ouvrage, de faire comprendre aussi cette préoccupation des historiens. Et de ce point de vue-là, finalement, j'aurais aimé vous poser la question, qu'est-ce qui, à vos yeux, fait une date historique? Parce que ce qui apparaît dans le livre, c'est qu'il y a des dates que vous appelez des vraies dates historiques, et puis des dates que vous appelez faussement historiques. Et donc, au fond, quels seraient les critères qui permettraient de départager les unes et les autres dans la construction que l'historien fait des événements?
Alors, les critères, là encore, sont subjectifs. Et ils ont été jugés très différemment selon les périodes. Je peux prendre un exemple, celui de la bataille de Chéronée en 338, avant notre ère, où les Athéniens, et aidés de quelques cités, comme les Thébains par exemple, sont vaincus par les troupes du roi de Macédoine, Philippe II. C'est une bataille perdue indiscutablement par les Athéniens, mais qui ne transforme pas entièrement la vie de la cité. Alors, elle perd ce qui lui restait de sa confédération, mais elle reste libre, autonome, elle a toujours sa marine, toujours ses soldats, le pays, la cité, le territoire de la cité n'est pas envahi. Les Athéniens du temps ont vu une défaite, mais ils en avaient connu d'autres auparavant, et finalement, des pires. Mais cette bataille de Chéronée, petit à petit, et surtout, dans l'historiographie contemporaine, considéré comme un point de rupture. La première moitié du XXe siècle, on a considéré la bataille de Chéronée comme une rupture absolue, avec un avant, la Grèce classique, dominée par une cité, notamment par Athènes, et cette bataille qui, d'une certaine manière, détruisait le principe même de la cité grecque. Des historiens, qui dans leur temps ont eu beaucoup de succès, comme par exemple Paul Clocher pour l'histoire grecque, a dit que 338 marquait la fin de la cité grecque. Gustave Glotz également. Or, maintenant, les études, notamment sur la période hellénistique, la période qui a suivi, montre bien qu'il n'y a absolument pas de fin de cité grecque. La cité grecque a toujours été quelque chose d'extrêmement dynamique, y compris sous l'Empire romain. En fait, ce qui change vraiment, c'est que le pouvoir au niveau supranational n'est plus l'apanage d'une cité, ce qui était Athènes ou pour auparavant Sparte, mais maintenant un royaume. Et on en a fait de manière, à mon avis, et pas qu'à mon avis d'ailleurs, artificielle, une rupture absolument essentielle. Donc, ce qui n'était pas du tout une date historique dans l'Antiquité est devenu une date essentielle et historique essentielle, on va dire, de la première moitié du XXe siècle. Et maintenant, elle est redevenue une date, certes importante, mais absolument pas une date de rupture. Donc, vous voyez, entre la manière dont, dans l'Antiquité et même parmi les historiens contemporains, on a pu voir cette bataille de Chéronée, eh bien, les choses ont beaucoup évolué.
Et vous en donnez plusieurs exemples, et il y en a un qui pourrait frapper un peu l'imagination des lecteurs, c'est la mort de Socrate. Dont vous dites finalement que, d'une certaine manière, elle est anecdotique. Alors que ce sont les modernes, c'est une date qui est souvent quand même mise en avant pour évoquer aussi une rupture, cette question que les historiens se posent toujours, continuité ou rupture, elle est au cœur, elle traverse votre livre. Donc voilà, la mort de Socrate, finalement, est-ce que c'est un non-événement ?
Alors, pour Socrate, non, évidemment. Pour Socrate, c'est un événement important. Pour les Athéniens du temps, c'est un non-événement absolu.
C'est même une bonne nouvelle, non ?
Oui, parce que d'abord, il est condamné à mort par un tribunal populaire, après accusation, après défense. Socrate paie son insolence dans le tribunal, puisqu'au moment où on lui demande quelle peine il mérite, il dit que pour tout ce qu'il a fait, il mérite d'être nourri jusqu'à la fin de sa vie aux frais de l'État. Voilà. Et il paie aussi d'avoir eu comme élève des personnages sulfureux, Alcibiade, qui a trahi sa cité pendant la guerre du Péloponnèse, ou plus encore Critias, le chef des oligarques de 404-403, qui a, je dirais, fait une révolution extrêmement sauvage et cruelle, qui a amené la mort de centaines et centaines de citoyens athéniens. Donc il a payé ça aussi. Mais on a des textes du IVe siècle qui montrent que, par exemple, l'orateur Échine dit que le sophiste Socrate a été justement condamné, il écrit ça vers 330, le sophiste Socrate a été justement condamné à mort, et que par conséquent, il faut aussi montrer à quel point finalement la mort de Socrate est passée de manière tout à fait, oui, vous avez dit tout à l'heure favorable, oui, du monde à Athènes, mais la personnalité de Socrate et son rôle dans la philosophie occidentale est devenu tel que c'est devenu, à partir du XVIIIe siècle, je dirais, presque le péché original de la démocratie athénienne, d'avoir condamné à mort un tel personnage. Voilà. Alors, évidemment, Socrate a bien été aidé par ses élèves, Xénophon et surtout Platon, dont l'apologie de Socrate montre, je dirais, tout le caractère du personnage et à quel point sa mort peut être considérée comme injuste. Mais on voit des historiens, et tout à fait des historiens presque contemporains, comme Édouard Ville, dire que la mort de Socrate montre que, oui, après la mort de Socrate, il dit on discutera toujours de la démocratie, mais à Athènes, la lumière a baissé. Et il termine son ouvrage sur le 5e siècle en disant cela. Là, on a vraiment une date qui n'est pas vraiment historique, pourtant que j'ai voulu mettre, parce que elle a été considérée comme telle.
Donc là, on parle de dates considérées comme des dates historiques fondamentales par les modernes. Mais ce que vous montrez bien aussi dans cet ouvrage, c'est que certaines de ces dates qu'on a retenues, elles ont été construites par les anciens eux-mêmes. Alors, ce qui m'a frappé, par exemple, je suis peut-être influencé par l'actualité, puisque l'année prochaine, comme chacun sait, il y aura les Jeux Olympiques à Paris. C'est ce que vous dites de la date de création des Jeux Olympiques, hein, en 776, qui finalement inventé par les Grecs comme un commencement, alors que finalement c'est quelque chose qui n'a pas toujours été pris en compte de la même manière par les Grecs.
Non, la date de la création des Jeux Olympiques comme début, en quelque sorte, d'un calendrier, et date du deuxième ou du premier siècle avant notre ère. On le voit très bien avec l'historien Diodore de Sicile, qui écrit à peu près à l'époque de César, et qui date toutes les années par les Olympiades. Mais ce sont des choses qu'on ne connaît pas auparavant. Et la création même des Jeux Olympiques en 776 est une pure invention. C'est en 476 que, pour la première fois, on a voulu, donc juste après la victoire des Grecs sur les Perses, on a voulu célébrer donc cette victoire à Olympie. Et à partir de là, on a un historien de l'époque a imaginé une création de 3 siècles auparavant. Et cette date-là est une date qui n'a pas d'importance, mais qui, compte tenu ensuite de ce que le monde contemporain au XIXe siècle l'a perçu, a amené à la recréation des Jeux Olympiques dans une atmosphère de retour des principes grecs, de la civilisation grecque et tout. Et on voit en 1896 les Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne se disputer à Athènes dans une sorte de, comment dire, de volonté de retour à une image que l'on se faisait de la Grèce. On le voit très bien, par exemple, avec la course dite du marathon, qui n'a jamais existé dans l'Antiquité. Donc, il y a là effectivement une vision inversée de ce que je disais auparavant, avec une date importante pour les contemporains que nous sommes, mais qui, dans l'Antiquité, n'avait pas beaucoup.
Elle en avait quand même si elle était considérée comme un point de départ. Sauf voilà. qu'elle a été inventée comme telle dans un certain contexte parce qu'elle permettait, c'est ce qui apparaît aussi de ce que vous en écrivez, comme un moyen aussi de connecter peut-être plusieurs commencements. Hein. Celui de l'histoire grecque et puis celui de Rome. Parce qu'il y a aussi on parlait de Diodore de Sicile, il y a quand même à un moment donné cette espèce de synchronicité qu'établissent les historiens grecs avec l'histoire de la puissance dominante de leur époque.
Alors, il est évident que le fait qu'il y ait que 23 ans d'écart entre 776 et 753 n'est certainement pas un hasard. Hein. Mais moi, j'insiste bien sur le fait que on a commencé à compter les années en Olympiade. L'Olympiade, c'est pas la période des Jeux Olympiques. C'est la période de 4 ans qu'il y a entre deux cérémonies olympiques. Et on a commencé à parler d'Olympiade tardivement, à un moment où déjà Rome commence à régner sur le monde grec. Et il est tout à fait évident que je pense que les Grecs ont voulu montrer qu'il y avait une forme d'antériorité du monde grec par rapport au monde romain.
Et est-ce que... on peut considérer qu'il y a comme ça des moments ou des dates qui ont été des éléments de construction, on va dire identitaire pour ce monde grec. Vous nous avez dit la Grèce n'est pas un pays, c'est une culture, c'est le grec. Et ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous rappelez au lecteur notamment l'illusion chronologique concernant Homère, par exemple, qui est finalement le symbole de cette culture grecque. Et dont les Grecs ne doutaient pas de l'historicité et de l'existence, celle-ci a été finalement remise en question par les modernes. Donc on est un peu dans la même logique, peut-être, je ne sais pas, je vous pose la question, des Olympiades, c'est-à-dire finalement fabrique identitaire un petit peu de ce monde grec par l'invention de moments charnières au commencement hein, de leur... au fond de leur histoire, de leur culture, de leur monde.
C'est-à-dire que les Jeux Olympiques et Homère ont un énorme point commun. C'est qu'ils sont, ce sont tous les deux des éléments constitutifs de ce qui fait la Grèce. On a tendance à voir les Jeux Olympiques comme quelque chose de purement sportif, à l'image de ce que l'on voit maintenant. Or, les épreuves sportives débutaient toujours, la première part, toute une série de cérémonies religieuses. Les Jeux Olympiques, comme tous les autres concours, sont avant tout des cérémonies religieuses, en l'honneur d'un dieu, Zeus à Olympie. Ils sont constitutifs de la civilisation grecque. Homère l'est à tous les titres, si je puis dire, puisque on trouve en Égypte, vous savez qu'on a, on a conservé beaucoup de papyrus dans le désert égyptien, et une masse très importante de papyrus découverts en Égypte représente l'Iliade ou l'Odyssée, et surtout l'Iliade plus que l'Odyssée. C'est-à-dire qu'en fait, un Grec isolé dans le désert égyptien, s'il avait quelque chose à lire, il lisait Homère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que Homère... On ne sait pas du tout l'époque à laquelle il aurait vécu. Ce que nous savons maintenant, par des études philologiques, des études vocabulaires aussi, c'est que il y a au moins 75 ans d'écart entre la composition de l'Iliade et la composition de l'Odyssée, et que de toute façon, nous savons aussi qu'il n'y a pas non seulement donc il n'y a pas un homme qui a fait ces deux œuvres, mais chaque œuvre est probablement l'œuvre de plusieurs poètes. Mais les Grecs, pour les Grecs, il y avait un personnage, un homme, c'était Homère.
Et pourquoi ont-ils éprouvé ce besoin finalement d'incarner dans une figure unique finalement l'origine de ces poèmes qui étaient au fondement de leur culture?
Eh bien, parce que les Grecs ont eu toujours un besoin de personnaliser une chose. De la même manière, on pourrait faire des similitudes avec la situation des lois de Lycurgue. Lycurgue est un personnage qui sans doute n'a jamais existé, ou en tout cas qui a une grande part de mythe autour de lui. Et pourtant, les Grecs du temps, les Spartiates, mais également les Athéniens, tous les Grecs, étaient persuadés que les lois du Lycurgue étaient sorties d'un homme qui, avec l'aide du sanctuaire de Delphes, de l'Apollon de Delphes, avait rédigé ces lois, les avait données à la cité. Et on pourrait un petit peu dire la même chose pour des personnages plus historiques, comme par exemple Périclès à Athènes. On a un petit peu l'impression que tout ce qui se fait dans la deuxième moitié du 5e siècle, ou on va dire dans les années entre 460 et 430, est de la main de Périclès. Il y a eu un besoin dès l'Antiquité de personnaliser des lois, donc un poème, des poèmes, un petit peu tout. Il y a, je dirais, cette volonté d'identifier un événement, un acte, une œuvre à un personnage.
C'est vrai qu'il y a une tendance dans les sources qu'on note quand on les fréquente un petit peu focaliser l'attention sur la figure du premier législateur, du premier inventeur. Mais alors, dans quelle mesure, finalement, et c'est un petit peu ce que vous venez de suggérer à l'instant, dans quelle mesure le regard que les modernes portent justement sur les grandes étapes de cette histoire ancienne n'est pas conditionné finalement par ces choix qui ont été faits par les anciens eux-mêmes?
Ah ben oui, ils sont forcément conditionnés parce que nous travaillons sur ce que nous appelons des sources, c'est-à-dire des textes qui ont été rédigés dans l'Antiquité. Et évidemment, ce qui était important pour les gens de l'Antiquité, ils l'ont conservé. Mais nous avons parfois, je dirais, quelques doutes méthodiques sur la véracité de tel ou tel propos qui a pu être écrit. Je pense par exemple à celui que l'on considère pas vraiment comme un historien, mais Plutarque, qui intéresse à la fois le monde grec et le monde romain, qui est à l'aboutissement de toute une tradition dans laquelle l'histoire et la mythologie se mêlent. Il a rédigé des biographies de gens qui n'ont sans doute jamais existé, comme par exemple la vie de Lycurgue. Mais on le voit aussi également avec l'histoire romaine. Ces personnages dont il a écrit une biographie, on est évidemment un petit peu gêné, mais en même temps, ce qu'il a écrit, lui, ne l'a pas inventé. Plutarque n'est pas un inventeur. C'est un personnage absolument sincère, mais qui, tout simplement, écrit avec le matériau que lui-même possède. Et là, effectivement, l'avantage que nous avons maintenant, si je puis m'exprimer ainsi, c'est qu'il y a un esprit critique vis-à-vis des sources, notamment des sources littéraires, qui n'existait pas, peut-être, je dirais, jusque dans les années 1850. La critique historique a démarré vraiment dans la deuxième moitié du 19e siècle, où on s'est mis à dire que peut-être que les historiens ou les auteurs antiques n'avaient pas forcément raison. Vous savez, il y a eu toujours, depuis la Renaissance, on nous dit que nous sommes des nains, les modernes, sur les épaules de géants, les anciens. Bon, on a le droit de douter de pareilles différences de taille. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, on est de plus en plus critique. Et la vie du Lycurgue, par exemple, de Plutarque, ne saurait être considéré comme, je dirais, une réalité historique. Mais on pourrait donner d'autres exemples.
Oui, et dans cette évolution-là, on tient aussi mieux compte de ce que les auteurs anciens eux-mêmes pouvait, disons, jeter comme regard critique sur leurs devanciers, hein, puisque les historiens anciens, certains en tout cas, sont, disons, très critique. On peut penser à Polybe, par exemple.
Oui, Polybe, ou même Thucydide. Lorsque Thucydide dit que les événements, la guerre du Péloponnèse qu'il va rapporter, sont l'événement le plus important qui ait connu la Grèce, bon, c'est pas très très gentil avec Hérodote qui a parlé des guerres médiques. Donc c'est une manière, je dirais, assez peu élégante de critiquer ses prédécesseurs. Bon, Polybe, effectivement, lui massacre régulièrement un certain nombre d'historiens précédents. Mais Polybe est un auteur vraiment tout à fait original. Je dirais d'ailleurs, il y a un historien du milieu du XXe siècle qu'il appelait le colonel Polybe. Donc avec ce que pouvait y avoir de méprisant dans ce propos, Polybe est un personnage. Bon, je n'ai pas insisté sur Polybe là, mais j'aurais pu effectivement faire une entrée sur Polybe qui montre bien, je dirais, l'attraction des élites grecques pour le pouvoir romain. Ça, c'est d'ailleurs, il peut être considéré d'ailleurs maintenant, il pourrait être considéré comme un traître. Hein. Voilà. Donc effectivement, il y a une Les Grecs ont critiqué, mais Plutarque aussi critique. Hein. Plutarque aussi critique, notamment, il critique ceux qui ne pensent pas comme lui. Vous me direz, c'est en général le sens de la critique. Hein. Mais Plutarque dit très clairement, je pense par exemple, lorsqu'il évoque un certain nombre de personnages qui ont été, je pense par exemple à l'Athénien Aristide, qui est critiqué par Démétrios de Phalère, dont nous n'avons plus que des extraits maintenant. Il attaque très, très durement Démétrios de Phalère en disant que Démétrios de Phalère s'est trompé. Donc, ils peuvent être critiques, mais disons que les modalités de la critique des auteurs antiques n'obéissent pas aux mêmes critères qui sont ceux maintenant que l'historiographie contemporaine nous impose.
Alors, vous avez choisi de retenir 50 dates. Alors, on pourrait vous demander pourquoi 50. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est finalement, parmi ces 50 dates, si vous deviez en mettre une en avant plus particulièrement, qui vous semble représentative de ce qu'a pu être finalement, ou qui symboliserait un petit peu cette histoire grecque que les 50 dates que vous avez retenues par ailleurs, finalement, donnent à voir au lecteur. Laquelle est-ce que vous choisiriez de retenir?
C'est pas facile, hein, c'est pas facile comme question, mais je crois que celle que je retiendrai, c'est 490, la bataille de Marathon.
Alors pourquoi?
Alors voilà, pourquoi? Eh bien parce qu'elle illustre, je dirais, toutes les incertitudes que nous pouvons avoir et toute la complexité de ce que peut être une date historique. La bataille de Marathon, 490 avant notre ère, est une bataille qui, à l'échelle des batailles de l'Antiquité, est une bataille de peu d'importance. On ne sait pas exactement combien il y a eu de morts du côté des Perses, mais nous savons qu'il y a eu 192 Athéniens sur une armée de 9000 citoyens qui sont morts et auxquels on a fait des obsèques extraordinaires. Cette bataille de Marathon, les Athéniens l'ont fait fructifier d'un point de vue idéologique. Ils ont dit, nous, on a battu les Perses. Alors, ils ne disent pas qu'ils ont battu une armée qui se repliait. Les Perses ont débarqué à Marathon dans l'espoir de faire tomber tout simplement les Athéniens et de mettre à la place d'Athènes, à la place des institutions athéniennes, un tyran athénien, d'origine athénienne, Hippias, qui avait déjà été tyran auparavant, et dont on pensait qu'il serait évidemment très favorable aux Perses. C'était absolument pas une main de fer qui se serait imposée, mais les Athéniens ont fait savoir qu'ils avaient sauvé la Grèce de l'invasion orientale. Et ils ont dépensé beaucoup de temps et d'argent pour montrer, par exemple, à Delphes, mais à Olympie aussi, et puis dans leur cité, toute une série de monuments, d'inscriptions dans lesquelles ils ont vanté leur succès. Et d'ailleurs, 10 ans plus tard, au moment de la Seconde Guerre médique, en 480-479, au moment de savoir où on va se placer au moment de la bataille terrestre de Platée en 479, ils viennent dire aux Spartiates, nous avons battu les Perses, et nous savons comment les battre. Donc à ce moment-là déjà, ils le font. Ils utilisent de manière idéologique leur victoire pour montrer qu'ils ont déjà sauvé la Grèce, donc on va à nouveau la sauver. Alors la bataille de Platée est un succès, pas uniquement du coup, grâce aux Athéniens, mais ça n'a cessé ensuite de dire que la bataille de Marathon était un événement absolument essentiel, non seulement dans l'histoire de leur cité, mais dans l'histoire de la Grèce. C'est à partir de la bataille de Marathon que les Athéniens ont fait une cérémonie tout à fait particulière qu'on appelle l'oraison funèbre, Epitaphios Logos, mot à mot le discours sur la tombe, où on vante les exploits de la cité, exploits mythiques, mais exploits historiques, et la bataille de Marathon est toujours évoquée en premier des exploits historiques de la cité. Et ça, ça dure. Ça dure, puisque au second siècle avant notre ère, on voit encore les jeunes Athéniens qui sont sous les armes, sur le service militaire, faire en armes le pèlerinage pour Marathon. Et Plutarque, qui vit, lui, au second siècle de notre ère, nous dit que, de son temps, vers 100, 110 avant notre ère, les Athéniens célèbrent encore la victoire de Marathon. Six siècles après. C'est un petit peu comme si nous, on fêtait encore la bataille de Marignan. Ça, c'est resté. L'idéologie est tellement forte que c'est resté. Et les auteurs byzantins qui écrivent entre le 9e et le 13e siècle parlent toujours avec grande émotion de la bataille de Marathon. Et jusqu'à notre époque, Marathon est devenu quelque chose de parlant. On ne sait pas la bataille qu'il y a eu à Marathon, mais on sait qu'il y a eu une bataille à Marathon. Et on croit d'ailleurs que on croit l'histoire d'un coureur qui est parti de Marathon pour annoncer la victoire aux autorités à Athènes, une quarantaine de kilomètres, et qui serait mort en arrivant. C'est une légende qui date du 3e siècle de notre ère et qui a été considérée comme vraie pendant très très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle cet exploit de Marathon, en fait, l'exploit du coureur de Marathon est bien plus importante, puisqu'il est allé d'Athènes à Sparte en courant pour demander l'aide de Sparte. Plus de 200 kilomètres. Il n'en est pas mort, puisqu'il a fait l'aller-retour. Donc, en fait, il y a une invention absolue qui a été prise, je dirais, pour argent comptant, par les historiens. Et au XIXe siècle, on a cru vouloir refaire la bataille de Marathon en faisant cette course, en donnant cette course d'une quarantaine de kilomètres entre le site de Marathon et le stade olympique d'Athènes. Et d'ailleurs, aux Jeux olympiques de 1996, le marathon est parti de Marathon. Il est parti de Marathon et le circuit passait devant le champ de bataille de Marathon. Autant dire que ce mythe antique est resté ancré dans nos mentalités, alors que, encore une fois, Marathon n'a pas sauvé la Grèce, mais l'a sans doute sauvé Athènes et puis permis, je dirais, de se créer un joli petit matelas idéologique.
Donc une date emblématique pour les
Grecs.
Mais une date emblématique aussi de la manière dont les historiens doivent se méfier des dates emblématiques.
Exactement, une date emblématique pour de fausses raisons. Pour de fausses raisons historiques. C'est pour ça que cette bataille me paraît tout à fait... cette date de 490 tout à fait intéressante. Je dirais sur les ambiguïtés de ce que peut être une date historique.
En tout cas, elle est tout à fait révélatrice des réflexions et... des présentations qu'on trouve dans cet ouvrage. Merci beaucoup, Patrice Brun,
merci à vous.
Toutes ces explications.